Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue sur Énergie Violette. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon invité, mais tout d'abord en introduction, voilà, une femme qui a été confrontée aux aléas de la vie qui n'ont pas épargné, et vers l'âge de 30 ans, elle ressent le besoin de se poser, de s'occuper d'elle. Pour l'accompagner dans cette démarche, elle opte pour les arts martiaux et choisit d'être suivie par une naturopathe. 20 ans après, la Covid lui offre la possibilité de donner un autre sens à sa vie professionnelle et c'est tout naturellement que la naturopathie s'impose à elle. J'ai ainsi la joie d'accueillir aujourd'hui dans cette émission Nathalie Roche. Bonjour Nathalie.
Bonjour Adeline.
Alors Nathalie, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je me réjouis d'aborder avec toi la naturopathie, la lithérapie, mais aussi la réflexologie plantaire.
Merci à toi pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je suis là. C'est une première, donc un petit peu stressée, mais ça va bien se passer.
Ça va très très bien se passer. Alors avant de parler vraiment de ton activité, Nathalie, on va faire un petit tour d'horizon sur ton parcours, ton histoire. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu en es venue progressivement à ce métier? Mais d'abord, voilà, qu'est-ce qui a fait ce cheminement?
Alors, si on commence à l'enfance, j'ai eu la chance, en fait, de grandir à la campagne. Donc, mes parents étaient cultivateurs. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une approche à la nature qui était là. Puisqu'en fait, les vacances, dès qu'on avait du temps libre, ça se faisait dehors, à l'extérieur. Je veux dire, un contact avec la nature, les éléments, les animaux, enfin, les jeux d'enfants. Donc, ça a été je pense quand même une base très importante qui m'a fait revenir aussi plus tard
aux sources.
Mmh. Et voilà, donc après, bon, j'ai suivi mon cheminement. À l'adolescence, c'est vrai qu'il y a eu des événements familiaux, des décès dans la famille qui ont été un petit peu difficiles et qui ont orienté forcément ma vie, hein, dans le sens de devoir avancer. Pour continuer. Et donc après, j'ai suivi un cursus, donc une scolarité où j'ai fait des études dirigées dans le commerce. J'ai passé le bac plus 2. Et ça a vraiment été commercial. Je voulais faire commercial parce que j'avais vu mon père, en fait, a eu à une période donnée de sa vie, était un peu dans le commerce. Mmh. Aussi, il recevait aussi des commerciaux en tant qu'exploitant, et je pense que cette fibre commerciale, elle était là quand même, donc j'ai pris cette voie. Donc ça a été très intéressant, très formateur. Alors ça a toujours été dans des domaines techniques. Parce que j'aime bien comprendre les choses.
C'était dans quel domaine?
J'étais dans le... En fait, technico-commercial, j'ai fait plusieurs domaines d'activité, ouais. À chaque fois différents, en fait. J'ai été dans les cabines de peinture, donc un milieu très masculin.
Masculin, ouais.
Et ça a été mon premier emploi, en fait, comme technico-commercial. Donc, j'ai été formée, hein, bien évidemment. Mais en fait, cette... D'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, ça m'a toujours plu. Donc, c'était technique, j'ai évolué là-dedans. Ensuite, j'ai fait plusieurs entreprises. Donc, ensuite, j'ai travaillé quelques années dans la sellerie industrielle. Donc, au départ, j'étais technico-commercial itinérante. Ensuite, j'ai plus été technico-commercial sédentaire. Et ensuite, je suis repartie sur la route, cette fois dans le milieu de l'artisanat, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, dans le domaine de l'industrie, où là, j'ai travaillé plus spécifiquement dans tout ce qui était l'étanchéité industrielle, ici, sur la région toulousaine, en fait.
D'accord.
Et ça a été mon dernier emploi en tant que technico-commercial avant la reconversion.
C'est vraiment le Covid qui t'a fait réfléchir ou... tu m'avais exprimé quand on a échangé un petit peu... que oui, tu avais eu des soucis dans la famille, des décès ou des maladies qui t'avaient quand même fragilisé ou qui t'avaient donné envie aussi de t'occuper de toi. Tu as été suivie par une naturopathe pendant assez longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté à cette époque voilà, où tu n'allais pas forcément bien?
Oui, donc effectivement, la période de Covid a permis en fait de, bah, comme beaucoup de monde, je pense, de se poser en fait, de plus être dans le rythme boulot, dodo, le stress.
Ça, on était à l'arrêt forcé.
L'arrêt forcé. Ouais. Donc il faut en ressortir. Enfin moi, en tout cas, j'en ai ressorti du positif. Déjà, ça a permis de se recentrer sur notre famille, le cocon familial, finalement, de prendre le temps de se poser. On a eu la chance aussi de pouvoir le faire dans des conditions agréables, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et donc, de prendre comme ça du temps pour moi, je me suis dit, parce qu'en fait, cet épisode a aussi été, dans le milieu professionnel, aller se poser la question, c'est un petit peu l'inconnu. Quand ça va redémarrer, est-ce que je repars à zéro avec un nouveau portefeuille client, tout repartir à zéro, puisqu'en fait, j'étais... mes clients étaient beaucoup dans l'industrie aéronautique et il y avait vraiment cet inconnu. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment, en fait, et de me poser, je sentais que je ne m'épanouissais pas en tant que telle, même si j'aimais le contact, finalement, c'était quand même pas la finalité, parce que commercial, c'est la course au chiffre d'affaires, il y a certes les relations, mais je veux dire, derrière, la finalité, c'est...
Faire du chiffre,
les objectifs, toujours de plus et de plus et de plus, très peu de reconnaissance. Et puis, j'étais confrontée à des clients, et dans le cadre des entreprises où j'allais, qui étaient soumis à un stress énorme. Et je me suis dit, moi, j'ai la chance là, de pouvoir poser, peut-être faire autre chose, posons-nous. Donc, je me suis renseignée. En naturopathie est venue, je dirais presque naturellement, il m'est venu naturopathie parce que je pense que j'avais ça en moi, en fait. Parce que pour moi, déjà, effectivement, je consultais déjà une naturopathe depuis longtemps. Donc, vous l'avez dit, hein, depuis l'âge de 30 ans. Je me suis renseignée pour pouvoir faire cette formation et intégrer ce cursus. Alors, pourquoi moi, j'étais venue à la naturopathie? Parce que, effectivement, jusqu'à l'âge de 30 ans, ça a été un petit peu chaotique. Effectivement, dans ma famille, il y a eu des maladies assez lourdes, donc j'ai vu aussi les dégâts que ça peut engendrer, le mal-être, et qu'il y a des prises en charge possibles là-dessus, donc, et puis aussi pour comment pouvoir faire pour éviter d'être malade. Donc j'avais conscience quand même de certaines choses, que le stress, que les émotions pouvaient amener à des choses assez dures, hein, et délétères pour le corps. Et donc ensuite, bon, il a fallu avancer, comme je le disais, donc j'ai suivi mon parcours jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai rencontré des personnes assez toxiques, je dois dire qu'ils m'ont pas trop laissé le temps de penser à moi. Et quand, en fait, à 30 ans, j'ai pris, la bonne décision de partir, de me retrouver seule et de me recentrer sur moi, j'ai ressenti ce besoin d'aller vers la santé naturelle, en fait. Donc, c'est là où j'ai été consulter une naturopathe et on fait un bilan, en fait, un peu de la vie, de tout. Parce que je ressentais que si je n'intervenais pas, en fait, tant au niveau physiologique, oui, mais aussi émotionnel, on est un tout, en fait. Ça pouvait avoir des effets vraiment délétères sur ma santé. J'ai ressenti ce besoin vraiment, moi. Donc, ça a été ma première démarche. Donc, avec une action très bénéfique, bien sûr, bon, sur des troubles du sommeil à l'époque, sur le stress, un stress très important. Elle m'a orienté aussi, c'était donc une dame, vers d'autres techniques que je ne connaissais pas forcément, donc la kinésiologie. Et puis après, ça a été le début d'un long chemin. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon cheminement qui sont dans le développement personnel ou thérapeutes. Et donc, ça m'a permis d'expérimenter, en fait, différentes techniques qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et de voir aussi celles qui me convenaient et qui ne me convenaient pas, parce qu'en fait, on n'est pas forcément réceptif à tout. Donc, ça a été un petit peu ça. Et en parallèle, ce qui a vraiment été très... salvateur, donc parce que aussi reprendre une activité physique était importante parce qu'il y avait besoin de sortir en fait une énergie et puis de c'est bon pour le corps. Et en fait, j'avais toujours été attirée par le karaté.
T'en avais jamais fait ?
Non, jamais. Wow. Ouais, ouais. Jamais, jamais. Mais ouais. Parce qu'en fait, j'ai toujours, enfin, j'adorais ça, regarder des films, karaté, etc. Et mais je me disais, c'est masculin. En fait, c'est pas pour moi. En plus, je suis pas forcément pas musclé, etc. Donc j'avais cette idée. Et puis, à 30 ans, j'ai dit, bon allez, je vais voir comment se passe un cours. J'étais vraiment, ça a été l'année où j'ai dit, je m'occupe, donc je m'écoute, je vais au moins voir ce que c'est. Et en fait, je suis tombée, donc il y avait un cours, et je suis tombée donc sur un des professeurs qui a pris le temps. En fait, j'avais plein de questions, qui a répondu à mes questions, qui m'a dit, mais non, voilà, regarde, tu vois, il y a des enfants, il y a des filles, il y a des... Ben voilà, il faut vraiment pas se mettre de barrière. Ok, t'es plus enfant et à 30 ans, mais il y a pas d'âge limite en fait. Le tout, chacun fait en fonction de ses capacités. Et l'idée, c'est vraiment de réinvestir. Donc, il m'a rassurée sur ça en me disant, ben voilà, tu peux faire un cours d'essai, deux cours d'essai, on verra comment ça se passe. Et puis, ben,
t'as bien accroché.
Voilà, mais ça s'est fait progressivement. Et après, ça a été une aventure, oui, de 10 ans à peu près.
Première d'âne, quand même.
Oui, tout à fait.
Bravo.
Là, ça a été un objectif, oui, oui, qui était... bah, c'est pareil, je pensais pas arriver là quand j'ai commencé. Et puis après, ça s'est fait progressivement. Et j'avoue que j'ai été...
Des compétitions, oui. Tu as fait un petit peu ou c'était pas trop, enfin c'était pas l'objectif pour toi de...
Alors j'en ai fait quelques-unes, mais c'était pas l'objectif premier. C'était plutôt pour la vie du club où en fait il y avait des compétitions régionales et après ça se, comment dire, il y a une partie technique, une partie combat. Donc c'est vrai que tout ce qui était combat était bon, quand même plus pour les jeunes où là ils se qualifiaient. Pour les nationaux, etc. Donc, et après, il y avait une partie technique où on travaille plus sur les katas, en fait, hein, donc l'énergie, le chi, etc. Donc, moi, j'étais plus sur cette partie, même si on faisait quand même des combats. Mais voilà, en compétition, c'était plus ça, donc ce qui était un bon exercice aussi. J'ai passé le diplôme pour devenir instructeur, donc le DAF. Et donc, pendant quelques années, j'encadrais les enfants, en fait, cours enfants, au sein du club, pareillement. Et puis, et j'avais commencé un petit peu l'arbitrage parce que ça me, en tant que,
ah oui, oui, oui.
Voilà, que observatrice, sans savoir si j'irais plus loin. Bon, puis après, le fait est que j'ai, par mon activité professionnelle, j'ai changé de club et tout, donc j'ai arrêté cette partie-là. Mais j'avais commencé, effectivement, parce que je trouvais ça très intéressant.
Waouh. Non, mais c'est chouette de commencer une activité aussi. Voilà, c'est pas évident de commencer un peu sur le tard, quoi, on va dire, une nouvelle discipline qui en plus est assez physique,
oui.
Qui demande aussi ouais, plein de choses, quoi.
Oui, c'est là où on voit qu'en fait, parfois on se met nous nos propres limites. C'est parce qu'effectivement, je veux dire, on a chacun des capacités. Effectivement, il y avait des... Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Il y avait des champions dans le club, il y avait des seniors, il y avait des... Tout, chacun trouve sa place, en fait. Et c'est ça qu'il y a de bien dans les arts martiaux, c'est que c'est aussi une... Avant tout, un art de vivre, en fait. Une philosophie. On apprend à se recentrer sur soi, sentir l'énergie qui circule. Et justement, c'est de cette énergie, en arrivant à la canaliser, qu'on va arriver à faire des choses... On ne se serait pas senti, en fait, possible. Donc, ça permet bien de recentrer et puis de gérer le stress. Après, il y a le respect, l'humilité. Enfin, voilà, parce qu'on rencontre... J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes au parcours extraordinaire, des champions, hein, en fait, et qui nous faisaient des stages. Et donc, là, voilà, ça... Oui, ça ramène une certaine humilité. On se dit, bon, quand on voit ces gens... qui sont humbles et en fait qui sont dans le partage et ben voilà, ça peut que recentrer en fait et se dire moi ben,
est-ce bon. Que tu voyais un lien déjà entre le karaté, la naturopathie, peut-être au niveau énergétique, ou il y avait un fil conducteur pour toi qui reliait un petit peu ces deux activités?
Oui, dans le sens alors, au début, j'ai pas forcément fait un lien entre les deux, mais en fait, les deux se sont fait un peu conjointement, déjà dans le sens où la naturopathie, physiologiquement, ramène un état d'équilibre, en fait, un équilibrage alimentaire, d'apporter, en fait, les nutriments qui vont bien. Donc, je veux dire, forcément, de se sentir mieux dans son corps physique. Donc, c'est quand même important pour après pouvoir, je dirais, pratiquer correctement l'activité sportive, en l'occurrence arts martiaux. Donc c'est vrai que le combo s'est fait à deux. Si je m'écartais d'un côté, ça me rappelait de l'autre, en fait. C'est vraiment, il faut que le corps physique soit en phase avec le reste.
Alors, tu décides de prendre des cours en naturopathie, de faire une formation. Ça donc suite à ce repositionnement pendant la période de la Covid. Est-ce que c'est pas dur de se dire je laisse tout tomber, je me mets à mon compte ou j'essaye d'avancer sur ce chemin et de reprendre les cours de l'école aussi, hein.
Oui. oui, ça a été. En tout, il y a effectivement la remise en question parce que c'est une activité que j'avais la maîtrise en fait depuis 25 ans, bon, plus salarié, je veux dire, là c'est dire j'arrête tout, je repars sans certitude de l'avenir, enfin c'est une période en plus qui était un peu trouble, donc j'ai eu la chance d'avoir mon mari en fait qui m'a épaulée dans la démarche, parce que c'est un projet aussi, ça vient impliquer toute la famille.
Évidemment.
Voilà, donc autant en période de formation que par la suite, parce qu'il y a une période d'installation qui n'est pas forcément évidente, on n'a jamais la certitude d'aller là où on vivre et il faut bien vivre au quotidien. Donc, on a longuement discuté de tout ça et bon, il m'a dit, ok, moi je t'appuie, on se donne un timing. Donc ça a été quand même moteur.
Oui,
aussi.
Bien sûr. On part déjà plus serein.
Serein, hein, tout à fait, que si j'avais été seule et j'aurais peut-être pas fait. Et donc ensuite, oui, j'ai repris. Après, j'ai toujours aimé apprendre. En fait, donc je veux dire, j'étais vraiment stimulée de me dire, je repars apprendre quelque chose. Voilà, redécouvrir le corps humain, l'anatomie, physio. Parce qu'en fait, avant ça, j'ai fait une remise à niveau en fait en anatomie. Mm-hmm. Et physiologie, justement, pour reprendre des bases. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai redécouvert des choses et j'attendais vraiment beaucoup de cette formation. Donc, j'étais très, très motivée. En même temps, oui, c'est plus quand j'ai intégré, en fait, l'école où je me suis rendu compte que j'étais la senior.
Oui, ça arrive. Hein.
Voilà. Et je me dis, oh là là, effectivement, là, est-ce que je vais suivre, en fait est-ce que je vais suivre parce qu'il y avait des personne qui était jeune, hein, ça allait de 20 ans, voilà. Et ben voilà, en fait, oui, ça s'est fait. Donc ça a été aussi, j'étais contente là-dessus, c'est que ça s'est très très bien passé. Et
oui, parce que c'est pas toujours évident quand on est un petit peu seul à avoir un âge différent des autres. Ça peut très bien se passer, mais en même temps, c'est pas toujours, on se sent pas toujours très à l'aise. Donc là, toi, tu as senti que le climat, l'ambiance était quand même propice à ce que tu avances dans ton projet.
Oui.
Et peut-être même tu as gardé des contacts avec les anciens étudiants plus jeunes ou alors c'est des gens que tu vois plus peut-être.
Avec certains, oui, on a gardé des contacts. En fait, il y avait différentes tranches d'âge, mais oui, avec certaines. Bon, après, comme partout, hein, on crée des affinités plus avec certaines que d'autres, mais oui, il reste encore des contacts et des échanges, en fait. Certaines ne se sont pas installées, d'autres se sont installées. Enfin voilà, ouais. On reste dans une dynamique, mais c'était très enrichissant. Après, une année très éprouvante, comme c'est sur un an, donc très intense.
Ça représente combien d'heures à peu près sur un an ?
On est à peu près sur 1200-1300 heures, parce qu'avant j'avais fait une remise à niveau, 1200 heures de formation.
D'accord.
Et surtout, donc des cours sont très denses, donc c'est un travail personnel à la maison. C'est-à-dire qu'on peut pas dire je sors du cours, j'ai fini. Donc en fait, pendant un an, c'était travail le soir, le week-end, vie sociale entre parenthèses, hein, vraiment, vraiment.
Et à aucun moment tu t'es senti découragée, t'as dit bon c'est pas grave, je reprendrai mon ancien boulot si jamais ça va pas, ou alors tu t'es dit non il faut vraiment ça, j'y arrive et c'est vers ça que j'ai envie d'aller.
Oui, mais c'est ça, il n'était pas question, enfin j'ai même pas envisagé du tout de dire je retourne, voilà, pour moi c'était évident. Après je voulais aller là-dedans, après je savais que ça allait être dur, mais non, voilà, j'y étais, et j'y surtout, voilà, parce que la formation a répondu à mes attentes, j'ai vu que c'était vraiment le chemin, je pense que j'avais trouvé ma voie, et c'était passionnant, donc j'ai tenu bon. Après, c'est une année dense, épuisante et aussi de grandes remises en question. Parce qu'en fait, on aborde beaucoup de choses, on a beaucoup d'échanges et c'est un travail, on ne ressort pas indemne, en fait, je dirais même pour soi, en fait, de cette formation. Derrière, ça remue beaucoup, beaucoup de choses.
Est-ce que tu t'es sentie accompagnée après pour t'installer ou est-ce que tu n'avais pas besoin d'accompagnement ? Comment ça s'est déroulé pour toi, cette mise en route d'activité ensuite ?
Alors, pendant la formation, en fait, on a un module où on nous explique un peu les grandes lignes pour l'installation, on donne des pistes, après c'est des échanges. Donc, il y avait quand même, voilà, déjà durant la formation, une mise en route pour pas que ça s'arrête net et donc voir comment on voulait avoir le projet, etc. Donc j'ai commencé déjà vers la fin de formation à essayer de voir où je m'installerai, où j'aurai un local, etc. Parce que je voulais pas qu'il y ait entre les deux. Et donc de ce fait, j'ai pu effectivement questionner aussi d'autres collègues, des professeurs, enfin qui m'ont. Et après voilà, on se donne les informations. Non, il y a eu une entraide en fait pour avoir, dirons-nous, les bonnes informations rapidement, quoi, pour pouvoir faire les bonnes démarches administratives, etc. Et ensuite, c'est encadré. Hein, c'est une école donc qui fait partie de la Fédération des écoles de naturopathie, donc certifiée. C'est une formation certifiante, ce qui est important. Et il y a un syndicat, enfin un syndicat entre guillemets, c'est l'OMNES en fait, c'est une représentation de la profession qui nous appuie sur le cadre juridique après. Voilà, on cotise, mais on a vraiment cet accompagnement pour faire les choses dans les règles et vraiment un suivi. Donc non, ça se fait bien.
Bon, alors... Tout à l'heure, dans la seconde partie de l'émission, on va vraiment aborder ton activité, ce que tu proposes, etc. Mais je voudrais qu'on donne quand même pour les auditeurs une définition, enfin ta définition à toi, de la naturopathie et des autres activités également que tu pratiques.
Alors la naturopathie, je dirais que c'est un petit peu la... médecine, mais quelque chose de général en fait sur tout ce qui est santé naturelle. On est généraliste en fait sur la santé naturelle parce qu'on va vraiment aborder. Il y a beaucoup de techniques en fait en naturopathie. On ne se spécialise pas tous dans une seule, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour intervenir. Donc c'est vraiment généraliste, oui. Et après on va trouver avec la personne ce qui va le mieux en fait pour l'adapter. Donc c'est de redonner en fait un équilibre au corps humain pour qu'il puisse s'auto-réguler et prévenir en fait, être dans la prévention pour éviter de tomber malade.
Alors quels outils, juste on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais quels outils on utilise en naturopathie?
Alors on va avoir beaucoup les plantes, alors sous les différentes galéniques, hein, il y a la phyto, il y a l'aromathérapie, il y a la gémothérapie. Donc moi pour ma part c'est gémothérapie et phyto principalement. Ensuite bon, il y a des techniques manuelles sur lesquelles on peut s'appuyer, comme la réflexologie plantaire, des massages. Ensuite il y a la micronutrition. Donc la micronutrition c'est de rapporter en fait des oligo-éléments, des nutriments qui peuvent faire défaut et qui sont des carburants essentiels pour l'organisme. Donc je travaille là-dessus également. Ensuite, on va agir aussi sur l'émotionnel par des élixirs floraux. L'équilibrage alimentaire reste un pilier. Hein, je veux dire, tout ça n'est pas envisageable si on ne reprend pas à la base l'alimentation et les bonnes règles. Alors, il ne s'agit pas de régime ou de suivi diététicien, mais c'est les bons équilibres alimentaires en fonction des périodes de vie, des activités de chacun. Voilà, donc on va agir essentiellement là-dessus.
Merci Nathalie. Alors on va marquer une courte pause et je t'ai demandé de choisir un extrait de musique à faire écouter à nos éditeurs. Qu'est-ce que tu as choisi?
Alors j'ai choisi Ease Over the Rainbow. Parce que pour moi, c'est une chanson, enfin, je pense qu'elle dit tout. Je ne sais pas, quand on l'écoute, en fait, pour moi, ça représente l'univers, c'est infini, en fait. Je trouve qu'on ressent, par les paroles, par la musique, qu'en fait, on est un tout et qu'il y a une continuité, en fait. que ça s'arrête pas derrière l'arc-en-ciel. C'est la sagesse au Ho'oponopono et voilà ce que ça m'évoque.
Merci, on la lance de suite. Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Et nous retrouvons immédiatement Nathalie Roche, qui exerce en tant que naturopathe réflexologue. Alors Nathalie, peux-tu nous expliquer en quoi consistent les soins que tu proposes et à qui s'adressent ces soins ?
Oui, alors donc au sein du cabinet, dont je reçois en consultation, enfin en séance individuelle, au sein du cabinet, donc il y a d'une part donc la naturopathie. Donc la naturopathie va se dérouler, le premier entretien, en fait le premier rendez-vous, est ce qu'on appelle un bilan vitalité. Parce que la personne qui vient, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas la personne, je ne connais pas son histoire. Donc l'idée, c'est vraiment, donc ça dure une heure et demie, voire deux heures parfois, mais une heure et demie minimum. Et ça permet de vraiment connaître la personne. Il y a donc toute une anamnèse, en fait, hein, sur le côté physiologique, mais également le parcours de vie, le côté émotionnel, puisqu'on agit, la naturopathie agit sur les trois plans. On est un tout et on peut pas prendre que la physiologie en laissant le reste de côté. Donc c'est vraiment La première étape, c'est ce bilan. Et à partir de ce qu'on s'est dit, j'établis en fait un programme d'hygiène vitale que j'envoie à la personne, donc qui va contenir en fait des... Donc le premier poste est toujours un équilibrage alimentaire, enfin équilibrage ou ajustement sur l'alimentation. Ensuite, ce sera des conseils en fonction, en accompagnement par les plantes ou en micronutrition ou en élixirs floraux. Je peux orienter également vers d'autres thérapeutes pour, selon la personne, ce que je pense pouvoir lui convenir. Et voilà, donc tout ça, ce programme, bon, la personne en prend connaissance, il y a un échange, il y a des questions, et ensuite on se laisse à peu près un mois et demi, deux mois de mise en place.
Pour qu'elle applique le programme.
Voilà, ouais. Qu'elle applique le programme, qu'elle commence à appliquer, et au bout d'un mois et demi, deux mois, on refait une séance de suivi, bon, qui est plus courte, qui dure une heure. Donc qui sert à faire le point, à voir s'il y a des ajustements, s'il y a du mieux, si peut-être... certaines choses sont difficiles à mettre en œuvre, revoir les choses. Enfin, c'est vraiment un échange, en fait, après. Et puis, j'y intègre, dans cette séance de suivi, parfois de la réflexologie plantaire, si c'est quelque chose, en fonction du trouble, qui peut s'avérer utile. Et voilà. Et donc, ensuite, la personne suit, en fait, toujours le programme et on se revoit une troisième fois si besoin, parfois en deux séances, en fait, selon le motif de départ, ça peut suffire à ce que les personnes aient les clés. Parce qu'en fait, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer, en fait. On dit qu'on est éducateur de santé, c'est de donner les explications de ce pourquoi on donne ou on préconise ceci, cela, pour qu'après la personne sache elle-même se réguler et se prendre en charge, en fait. C'est vraiment, vraiment l'idée. Même si on reste présent et si on se revoit parfois 6 mois ou 1 an après, mais les bases sont là pour pouvoir être acteur de sa santé dans les meilleures conditions.
Et la réflexologie plantaire, alors ça, moi je sais un petit peu en quoi ça consiste, mais précisément, et pour nos auditeurs qui auraient envie de tester ou d'essayer cette technique, en quoi ça consiste ?
Alors la réflexologie plantaire, alors c'est une technique manuelle qui fait partie de la naturopathie. Donc l'idée, c'est que dans le pied, en fait, enfin c'est sous le pied, sur le côté, mais également sur le pied, on va retrouver en fait des zones réflexes qui sont la projection, on va dire, de tout le corps humain, aussi bien, je veux dire, des organes que la sphère ostéo-articulaire, que voilà le côté hormonal. Donc en stimulant ces zones réflexes, on redonne en fait une information par le biais du système nerveux à ce qu'on veut travailler. Donc ça peut être aller travailler au niveau des intestins. Donc je vais, en agissant sur une zone sous le pied, on va aller donner une information à l'intestin. Et c'est valable pour l'ensemble du corps.
Est-ce que ces informations, elles transitent par le subconscient ou par où elles passent pour
Elles passent par le système, parce qu'en fait, dans le pied, il y a le fascia, et ensuite, on a tout le système nerveux qui passe. Donc, on va vraiment redonner l'information en touchant, par le toucher. Ouais. L'information est véhiculée par le système nerveux.
D'accord.
Et les méridiens aussi, qu'on peut retrouver en médecine chinoise, voilà, puisque ça passe également sous le type, puisque les médecines chinoises est à l'origine aussi de la réflexologie plantaire. Donc tout est vraiment lié et on arrive à voir. Donc il y a des protocoles. Un protocole dure, enfin en cabinet, c'est une heure, on va dire, où on est 50-55 minutes sur le pied et on passe à chaque fois l'ensemble du corps. Donc après, on peut choisir soit de faire uniquement la détente. Donc on passera l'ensemble du corps en accentuant sur le côté mental, lâcher prise, ou on peut accentué sur différents troubles, hein, sur l'acné par exemple, sur les troubles digestifs, sur de l'eczéma, enfin, sur un tas de choses, on va pouvoir essayer de donner des informations pour améliorer ça. Bien évidemment, ça se fera toujours en parallèle d'une hygiène de vie correcte, mais ça apporte un bienfait immédiat. Après, pour le perdurer sur des troubles...
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça revient ou est-ce que si on a une hygiène de vie qui correspond, c'est de l'acquis ?
Et alors en fait, c'est ça, c'est quelque chose de chronique. Par exemple, on travaille sur le sommeil. Pour avoir vraiment un effet qui va durer, une seule séance ne suffira pas. Elle va être efficace sur quelques jours. Enfin, en fonction de la sensibilité des gens, ça peut être un jour. D'autres, ça va se prolonger sur 4 jours. Et après, ça va revenir. En fait, pour l'inscrire, que le corps inscrit l'élément, il faut une séance par mois pendant plusieurs mois. Donc, en fonction du trouble, ça peut être 5, 6, 7 mois, mais à minimum une par mois. Quand c'est quelque chose... Et ensuite, après, l'information est inscrite et, je veux dire, le bienfait perdure. Quand c'est quelque chose de plus aigu sur la sphère articulaire, par exemple, il va falloir des séances beaucoup plus rapprochées sur un court laps de temps. On va dire 2 séances par semaine pendant 15 jours, 3 semaines en fonction, pour avoir un résultat immédiat.
Et alors, tu m'avais dit aussi que tu pratiquais la lithérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que c'est ?
Oui, alors la lithérapie, alors LI, c'est L-E-E, donc libération, émotion, énergie. C'est une technique que j'ai découvert parce que j'ai voulu tester, en fait. Et quand je l'ai testé, j'ai dit « Ah, oui,
ça marche.
» Ça marche. Et c'est puissant. Et c'est vrai que c'est très peu connu dans la région, parce qu'en fait, j'ai testé ça et été formée sur Dijon, en fait, où là-bas, il y a beaucoup plus de praticiens. Donc, la personne qui a mis en place, en fait, cette technique, qui est formateur, était à la base kinésiologue pendant plusieurs années. Et à créer, à peaufiner, en fait, en fonction de sa sensibilité, de la pratique qu'il avait mis en place, cette technique où, en fait, on utilise le test musculaire, comme on peut l'utiliser en kinésiologie, mais aussi parfois en médecine chinoise, pour interroger le corps et, en fait, aller chercher vraiment... Là, on est uniquement sur l'émotionnel, c'est-à-dire que le corps va nous faire... Alors, une séance commence par un réglage énergétique, c'est-à-dire qu'on va voir si les méridiens, si l'énergie circule correctement au niveau des chakras, des méridiens, et parce qu'il faut que tout soit fluide pour pouvoir après avoir une séance, on va dire, qui soit efficace, en fait, et inscrire la chose. Et donc, une fois ce réglage d'énergie effectué, on va aller chercher quelle émotion, le corps veut libérer. Voilà. C'est le corps qui va parler et donc il y a toute une roue, hein, une grille d'émotions assez large. Et donc ça, c'est moi qui cherche en fait par le test musculaire. Et une fois que il est ressorti quelque chose, il y a un échange avec la personne. Mais toujours sur une émotion, pas sur des événements, sur des émotions. Et très souvent, ça parle de suite, en fait, ne serait-ce que de nommer une telle émotion, la personne sait directement de quoi ça vient. Et ça peut être des choses très anciennes, hein, qui remontent à bébé, vraiment très très loin, comme travailler sur le transgénérationnel aussi, en fait. Ça peut amener sur des choses qui viennent de lignées.
Est-ce que ça demande une participation active de la part du patient, enfin de la personne que tu vas traiter, ou est-ce que il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de te dire, c'est le corps qui te donne toutes les réponses et tu fais ton protocole pour résoudre ce que tu as rencontré?
Alors, c'est effectivement le corps qui me dit, la personne est allongée, j'utilise uniquement le bras, l'avant-bras.
Ouais.
Donc la personne, voilà, juste à être suffisamment tonique pour que l'avant-bras tienne, en fait, hein, mais ça se fait sans résistance. Et ensuite, il y a quand même un échange, voilà, quand une émotion sort, etc., je trouve important d'échanger avec la personne. Ceci dit, ça pourrait se faire sans qu'il y ait de...
Oui, d'échange verbaux.
Voilà, puisqu'après, en fait, une fois que l'émotion a été nommée libérer, on va dire, et inscrire, en fait, ce qui est sorti pendant la séance, j'utilise la musique. Donc, en fait, la lithérapie, ça, on travaille. Bon, il y a d'autres outils. On peut utiliser des pierres, les élixirs floraux.
Sur la musique, c'est quoi? C'est plutôt des fréquences particulières ou c'est... je parle de fréquences parce que, 432 Hz, 963 Hz. Est-ce que tu utilises ça ou est-ce que c'est d'autres types de musique?
Alors, c'est tout type de musique. C'est... Vraiment, en fait, on va avoir des musiques, mais qui peuvent être des musiques, des chansons, en fait, hein, ou uniquement des musiques sans paroles. Ça n'est pas moi, encore une fois, qui l'a choisi, en fait, finalement.
Ah, oui,
la correction, la musique choisie, c'est le corps qui va me la... Enfin, c'est par le biais du corps, en fait, qu'elle va être déterminée. Donc, moi, je ne sais pas d'avance, finalement, quelle va être la mélodie ou la chanson. À la fin de la séance, il peut effectivement arriver, si besoin, de passer par une musique qui va être sur une certaine fréquence, mais juste, on va dire, là, pour harmoniser, en fait, la séance et inscrire ancrer avec l'eau du corps, quoi, en fait, pour fluidifier tout ça. Mais sinon, non, ça peut être des chansons de variété, comme ça peut être des musiques, des mélodies. Et ça a très souvent une résonance. Encore une fois, c'est toujours la surprise, mais c'est intéressant quand la musique met en route, ça a une résonance très pour la personne, en fait. On peut avoir des choses très surprenantes.
Qui remontent, certainement. Alors, pour donner des exemples peut-être concrets, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, pour quel type de pathologie ou de problème les gens viennent te consulter?
Oui, alors aujourd'hui les troubles, alors la naturopathie peut être uniquement de la prévention, hein, mais c'est même merveilleux pour les enfants ou à tout âge, ou même en désir de un désir de grossesse, ça se prépare, et en fait il y a une action intéressante pour justement de aider le couple à la conception, et puis leur donner tous les nutriments pour que tout se passe ensuite par la meilleure des choses. Donc on est dans la prévention, mais sinon aujourd'hui c'est vrai que avec les modes de vie, les personnes qui viennent ont très souvent des troubles. Donc on va dire que c'est très large. La naturopathie va avoir une action sur les troubles digestifs, sur les troubles cutanés, sur les troubles inflammatoires chroniques, sur la gestion du stress, le sommeil. En fait, c'est vraiment très 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 large, puisqu'en fait la physiologie du corps a un impact, sur tout. Après, je rappelle, et c'est vrai qu'il est important, parce qu'aujourd'hui on entend parfois des controverses. Nous ne sommes pas médecins, bien évidemment, et on ne se substitue pas à la médecine ni à un avis médical. Je veux dire, l'idée, au contraire,
bien sûr, oui.
On est complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler en fait en complémentarité avec des médecins, parce que c'est très intéressant en accompagnement, en fait, sur un confort de vie aussi, sur des personnes qui sont surmédiquées, ça peut apporter du bien-être pour mieux gérer en fait des effets secondaires de certains traitements, apprendre à équilibrer son alimentation en fonction, ou à mieux dormir. Enfin voilà, c'est vraiment multi-palette. Donc on dirait qu'on peut venir un peu pour des choses toujours pour le bien-être, hein, bien évidemment, quand c'est je disais, des pathologies, notre rôle est aussi d'orienter vers les médecins.
Bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Tu dirais que la naturopathie, c'est plutôt quelque chose qu'il faut faire en préventif, ou est-ce que c'est tout aussi efficace pour amener à la guérison? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens? Parce que je sais que l'autre jour, j'avais reçu quelqu'un qui pratique la médecine chinoise, et c'est vrai que c'est... On le considère pas, nous, parce qu'on a l'habitude d'aller voir un médecin quand on est vraiment malade, hein. Mais j'ai vu que c'était très intéressant aussi d'aller faire un petit tour de temps en temps pour prévenir justement des troubles qu'on pourrait rencontrer par rapport au changement de saison, par rapport à des maladies chroniques qui peuvent revenir, des choses comme ça. Donc, comment toi tu pourrais dire, voilà, est-ce que la naturopathie, ce serait bien d'y aller peut-être une fois par an, faire un check-up ou...
Oui, je pense effectivement que c'est une démarche qui n'est pas forcément inscrite dans notre culture, mais c'est vrai que oui, on est vraiment à la base dans la prévention, et un check-up, une fois par an me semble judicieux, parce que le corps, en fait, je veux dire, est intelligent. C'est merveilleux, parce qu'on réfléchit pas pour respirer, on réfléchit pas pour... Enfin, tout ce qu'on fait, le corps assure en permanence un équilibre sans qu'on ait à réfléchir, sauf que si on n'a pas les bons aliments, si on est trop stressé. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont faire que s'il y a des désordres, le corps va compenser, mais silencieusement. Mmh. Donc, on aura toujours l'impression d'être en équilibre, alors que peut-être il va aller piller, il va aller chercher le magnésium ou le zinc ou d'autres choses dans des muscles, dans des organes, dans des articulations. Et en fait, on va bien jusqu'au jour où il arrive un trouble. Donc, ça se prévient, évidemment. On a besoin de carburant, on a besoin de prendre soin du véhicule qui est son corps, en fait. Mmh. Parce que quand on commence à avoir des symptômes, c'est que déjà il y a eu des choses, donc agir en
un débordement.
Voilà, oui, déjà. Mmh. Donc il y a moyen après de rétablir les choses, mais c'est vrai que si on peut l'anticiper, c'est d'autant mieux en fait pour éviter d'avoir ces désagréments.
Alors, ce que tu proposes toi dans ton cabinet, tu vas nous dire aussi où il est, comment on peut prendre rendez-vous avec toi. C'est avant tout des séances individuelles, hein, c'est ça?
Oui.
Tu fais aussi des séances, ça t'arrive de faire des séances en famille ou je te pose cette question comme ça, hein, c'est juste...
Non, c'est ça. Après, quand c'est des enfants, effectivement, oui. Il y a les parents qui, aussi bien en naturopathie ou même, ça m'est arrivé en réflexologie, où les parents peuvent rester à côté pendant la séance, ça, il n'y a aucun souci. En lithérapie, sur les enfants, c'est pareil. Les personnes peuvent rester sans problème, mais sinon, on se concentre vraiment sur un individu, quoi, en fait. C'est vraiment individuel. Donc oui, je vois.
Donc la naturopathie, toi, tu recommandes fortement 2 ou 3 séances, hein,
oui.
Espacées dans le temps pour pouvoir appliquer un protocole qui
tout
va
fait.
Aider à aller mieux. La réflexologie plantaire, pareil, même schéma, ou est-ce que ça peut être une séance unique pour un souci particulier ou...
Mais la réflexologie peut être une séance de bien-être, je veux dire, effectivement, toute seule, parce qu'il en ressortira un bienfait pour l'organisme. Il y a un petit peu un scan corporel. Après, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir régulièrement une séance par mois pendant au moins, comme je disais tout à l'heure, 3-4 mois pour vraiment bien ressentir les bienfaits sur la durée.
Mais c'est quelque chose que l'on peut offrir à quelqu'un, par exemple,
tout à fait,
une
oui.
séance de naturopathie, non, parce que là, ça engage la personne,
implique.
Mais pour la réflexologie, oui, c'est un soin bien-être, vraiment.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'en plus, des séances, effectivement, des bons cadeaux, régulièrement, il y a des personnes qui viennent, et oui, ils ressortent, c'est un moment de détente, hein, je veux dire, cadre cocooning, la musique, vraiment, il y a... grande détente avec des bienfaits qui perdurent dans les jours qui suivent. Donc oui, c'est très agréable en fait. Et des personnes qui ne connaissent pas sont très souvent agréablement surpris parce que je ne sais pas pourquoi, le pied, on se dit toujours oui, oh. Mais en fait...
On a peur des guillis d'abord.
C'est ça,
et
oui.
Puis après, on se rend compte que ça fait beaucoup de bien. Voilà.
Oui. Et les retours que j'en ai, c'est vrai que généralement, ça passe très très bien. Mais avec les personnes qui sont au Châteauvieux, certaines personnes me le disent parfois. En fait, je fais aussi la réflexologie, j'interviens en entreprise, en fait.
Ah, intéressant. Tu peux en parler. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie d'offrir un soin détente à leurs salariés, c'est le moment.
Donc en fait, dans les entreprises, en fait, alors très souvent, ça intervient, c'est dans le cadre des risques psychosociaux, en fait, au même titre que les massages à main, etc. Donc, quand je viens, en fait, je viens avec la table, etc. Donc, les personnes sont vraiment allongées, enfin, en condition. Je dirais la condition, c'est d'avoir une salle à disposition, voilà, pour que la personne puisse être dedans. Et en entreprise, les séances sont plus courtes, c'est sur 30 minutes. Ça peut se faire sur 45 minutes, ça dépend du temps dont disposent les personnes. Généralement, c'est sur la coupure de midi
oui.
Ou en fin d'après-midi, en fait. Et donc là, il y a un protocole établi où on va vraiment travailler sur le stress, le lâcher prise, en fait, pour pouvoir éviter en fait, d'arriver justement à un état de saturation et éviter les burn-out. Donc ça marche très très bien. Parce qu'en plus, le fait d'être sur place, je dirais que ça incite, ça s'inscrit beaucoup plus facilement dans la journée.
Oui.
Voilà. Donc, les personnes prennent le temps, donc ils arrivent à avoir une régularité et vraiment à ressentir du bienfait immédiat, quoi.
J'approuve. Et même pour le travail, c'est agréable aussi de s'offrir un petit moment de bien-être, de détente et de réparation du corps.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est. C'est
alors, tu nous as donné envie, mais comment on fait pour te contacter? Où t'habites? Comment on te trouve sur Internet? Dis-nous tout.
Alors, mon cabinet est sur Plaisance du Touche. Donc, je suis dans le centre de Plaisance.
À côté de Toulouse, on précise, pour les Occitans qui nous écoutent et ceux des autres pays également, parce qu'on était aussi écoutés dans d'autres pays.
Voilà, donc à côté de Toulouse.
Oui, Nathalie, je précise, Nathalie ne fait pas de soins à distance, à moins que, je ne sais pas si tu proposes...
Non, c'est vraiment que en présentiel. Si, pour la naturopathie, par contre, c'est l'exception, je fais des séances en visio, effectivement, c'est bien de le préciser.
Voilà.
Mmh. Parce que la naturopathie, comme il n'y a pas de technique manuelle, il n'y a pas besoin de toucher, en fait, par la visio, on peut faire le bilan vitalité, et j'ai des créneaux, d'ailleurs, de réservation, uniquement en visio, en fait. Après, ça se fait par un échange par mail sur le programme. Donc, voilà. Ensuite, donc, le cabinet, donc, où c'est visio, où c'est en présentiel, donc c'est à Plaisance. Pour prendre rendez-vous, donc j'ai un site internet, donc nathalieroche-naturopathe.fr. Et sur le site, il y a un onglet de prise de rendez-vous directement en ligne. Ça peut se faire également par téléphone, donc en me contactant directement. J'ai un blanc sur mon numéro de téléphone, c'est très bête.
Eh bien, je crois qu'il doit être inscrit sur ton site.
Voilà, il est inscrit
Nathalie
sur mon
Roche,
site.
Voilà. Alors, on va marquer une courte pause. Je te remercie, Nathalie. On reprend tout à l'heure. Et moi, j'ai choisi de vous faire écouter Closer to the Source, parce que j'aime bien être près de la source. Voilà, on écoute.
To talk about doing good.
Énergie Violette, nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Roche, qui est naturopathe, réflexologue. Alors Nathalie, on a abordé les soins que tu proposes, les pathologies que ça peut arranger. On a oublié des petites choses, il me semble, notamment l'iridologie. Tu pratiques. Qu'est-ce que c'est que ça, l'iridologie ?
Oui, alors l'iridologie, c'est l'analyse de l'iris de l'œil. En fait, c'est un outil qui va permettre de voir, on va dire, les forces et faiblesses de l'organisme. Donc, ça aide bien, en fait. Moi, je l'utilise beaucoup, je l'utilise lors du bilan vitalité. Donc, je prends l'œil, l'iris de l'œil en photo, en fait. Et ça permet de comment on arrive à voir forces et faiblesses, parce que il y a une cartographie qui a été établie, hein, et les médecins homéopathes s'en servaient beaucoup. Ça a d'ailleurs été amené, enfin, en Europe par un médecin homéopathe. Et donc cette cartographie, en fait, c'est des signes dans l'iris de l'œil. On a des signes, des colorations, des petits signes, des petites zones. Et en fonction de où ça se situe, c'est en lien pareillement avec des organes du corps humain. Donc, on arrive. Après, ça nous donne des indications.
Oui, ça te confirme infirme certaines choses.
Certaines choses sur des
choix de protocole que tu vas aussi.
Exprime la personne, oui, tout
d'accord.
À fait.
Mm-mm. Ah, c'est très intéressant. Et alors, tu disais aussi que tu allais faire des séances en entreprise. Et que tu organisais aussi des ateliers. On en avait parlé. Dis-nous ça. Dis-nous de quoi il s'agit.
Oui, tout à fait. Alors les ateliers, pareil, donc là ce sont des petits groupes, minimum 5 personnes, ça peut aller jusqu'à 10 personnes. Et donc en fait c'est basé sur la naturopathie, dans le sens que les thématiques choisies rentrent toujours dans le cadre très souvent des risques psychosociaux. Donc on va choisir d'aborder comment améliorer sa qualité de sommeil, gérer son stress ou éviter justement de venir dans une situation d'urgence, les aliments santé. Comment améliorer également c'est l'aspect cognitif, parce qu'en fait la micronutrition va permettre d'optimiser certaines choses. Donc voilà, tout ça se fait dans des ateliers qui durent une heure. Mmh. Et donc c'est plutôt atelier conférence. Et parfois, effectivement, on va montrer des exercices, dans la gestion du stress, par exemple, des techniques respiratoires, ce genre de choses, pour que les personnes puissent mettre en pratique après par eux-mêmes.
Alors, est-ce que tu as encore d'autres projets ? Parce que tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que tu as des projets qui viendraient en complément de ton activité déjà ? Ou est-ce que tu vois d'autres choses se profiler ou que tu aimerais expérimenter pour toi-même et pour les autres ?
Après, déjà, c'est comme je dis, c'est assez déjà complet, oui. ça prend beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'on est toujours, je dirais, c'est jamais, on est toujours en quelque part en veille et en formation, parce qu'en fait, ne serait-ce qu'en naturopathie, je veux dire, la science évolue très vite, tout évolue vite, et donc il y a régulièrement des conférences, des conférences avec des médecins ou autres intervenants pour toujours peaufiner sa technique. Donc oui. C'est toujours sans cesse. Donc c'est pareil sur les techniques manuelles, en fait, sur la réflexologie. Donc même si ça semble rester, c'est toujours en mouvement et c'est toujours des projets qui nécessitent pas mal d'investissement. Donc c'est vraiment ça. Moi, pour l'instant, c'est continuer à peaufiner en fait la technique et toujours apporter pour améliorer encore l'accompagnement auprès des personnes, parce qu'après on peut se spécialiser sur certaines choses, le sportif, sur l'accompagnement de la santé féminine, ce que j'ai fait dernièrement.
Ouais.
Donc c'est assez complet. Et après oui, des techniques, il en existe tellement, mais je pense que
oui, t'as déjà pas mal d'outils.
Oui, vaut mieux être bien dans peu de techniques.
Alors, on aborde bientôt la fin de l'année, c'est bientôt l'hiver, on a des petites maladies qui viennent spécifiquement sur cette période. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux auditeurs qui nous écoutent en termes de petits soins ou de conseils pour aborder ces deux derniers mois ?
Effectivement, là, pour bien aborder l'hiver, il est important en fait de bien, c'est l'immunité, on entend toujours parler, mais donc de vraiment bien renforcer en fait son organisme pour pouvoir aborder au mieux, prévenir justement et éviter d'avoir ou de mieux gérer tous les petits virus qui vont se présenter. Donc c'est bien prendre soin de la sphère intestinale, c'est très très important, je dirais que c'est le béaba en fait. D'être bien, s'il y a quelques petits troubles au niveau, à ce niveau-là, il ne faut pas attendre et je dirais prendre en charge de suite parce que l'immunité passe énormément par là, plus après quelques compléments alimentaires. Donc tout le monde peut prendre du magnésium, il est conseillé déjà à tout le monde de prendre du magnésium parce que c'est un nutriment essentiel et qui n'aura pas de contre-indication avec quoi que ce soit. Donc ça, c'est important. La vitamine D, on le sait aujourd'hui, très importante également. Donc,
qui comble un petit peu, qui compense le soleil qu'on a moins en hiver, bien sûr.
Tout à fait, et qui a un rôle important aussi bien sur le capital osseux, mais que sur l'immunité. Donc ça, je dirais que c'est magnésium, vitamine D, c'est des choses qu'on peut prendre sans risque. Voilà, c'est conseillé. Les oméga-3. Donc les oméga-3 dans l'alimentation que l'on va trouver dans les petits poissons gras. Et dans certaines huiles végétales, l'huile de colza qui a un bon rapport qualité-prix, ou l'huile de lin, mais elle est très riche en oméga 3, donc l'huile de lin c'est pas plus d'une cuillère à café par jour si on opte ça. Voilà, parce qu'après ça peut avoir un effet contraire et déséquilibré en fait. Donc voilà, si à la base magnésium, oméga 3, vitamine D sont déjà ce combo-là. On fait déjà quelque chose de bien et les prébiotiques pour renforcer la flore intestinale, probiotiques pour renforcer la flore intestinale aussi. Il y a un peu des désagréments à ce niveau-là.
Et puis surtout avant les fêtes,
c'est mieux. Et oui, avant les fêtes. Et puis après, prendre soin de soi, de son mental, de...
Oui, voilà. Tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs qui serait cette fois-ci plus personnel peut-être?
Oui, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, en fait, prendre le temps. On parle beaucoup de vivre l'instant présent et c'est loin d'être facile, en fait, de se recentrer sur soi. Aujourd'hui, Eckhart Tolle, que j'adore. Voilà, et on se rend compte que c'est loin d'être facile. Donc, chaque petite chose qui sera faite, même si c'est...
Eckhart Tolle, pardon, je te coupe, si nos auditeurs ne connaissent pas son célèbre livre qui fait l'unanimité, hein, Le pouvoir du moment présent. Et voilà, qui aide beaucoup, beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de choses et à être mieux aussi.
Oui, qui est une pépite qui permet... Donc voilà, écouter, prendre soin de soi, prendre le temps de se recentrer, écouter son corps parce qu'il vous parle. Et pour entendre son âme et son corps, je pense, enfin pour laisser parler son corps et que son âme s'exprime par son corps, il faut faire taire le mental. Et voilà, donc ça implique de se recentrer. Je pense que c'est important de le faire, même si c'est un tout petit peu dans la journée, ça sera toujours ça de prix.
Tout à fait, merci. C'est un beau message en tout cas. Moi, je te remercie vraiment d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je te souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Merci vraiment pour cette émission. Un grand merci également à Léo Tourou, à la technique. C'était Énergie Violette. L'émission touche à sa fin et vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Je vous dis au revoir, namasté les amis et surtout prenez soin de vous.
Merci de ton accueil.
Merci Nathalie.